l'âme du corps dans la montagne.
C'est un messager qui annonce la fin de la guerre. Les Hébreux viennent de remporter une victoire éclatante contre leur vieil ennemi, le roi Sisera. Le jour de cette bataille décisive, l'armée d'Israël était commandée par une femme extraordinaire, Déborah.
C'est une reine ?
Non. En ce temps-là, les Hébreux n'avaient pas encore de roi, mais seulement des héros qui les menaient au combat pour la liberté.
Y a-t-il encore eu d'autres guerres en Israël ?
Hélas, oui, David.
Pourquoi toujours faire la guerre ?
Parce que les ennemis envahissaient le pays. C'était alors surtout les Philistins, que l'on appelait encore « peuple de la mer », car ils avaient surgi de la Méditerranée en bateau. Parfois, quand les nouvelles étaient trop mauvaises, un paysan rappelait l'histoire de Samson, le héros suscité par Dieu, qui avait si bien lutté contre les oppresseurs du peuple d'Israël.
Samson était un géant ?
Non, ce fut un combattant de la liberté, dont la force est demeurée légendaire. Ses compatriotes pensaient que l'Esprit de Dieu habitait son corps invincible. Tout jeune, ce petit paysan inquiétait son entourage. Il était turbulent et frondeur. À 12 ans, il pouvait étrangler un lion comme un chevreau. Devenu grand, il prit le maquis contre l'occupant. Un jour, il attrapa 300 renards, leur attacha une torche allumée à la queue et les lâcha sur le territoire tenu par les Philistins, brûlant ainsi leur campement et leur récolte. Une autre fois, à grands coups de mâchoire d'âne, il terrassa un millier d'ennemis. Pris en embuscade et fait prisonnier, il fit sauter les énormes chaînes qui l'entravaient et s'évada. Il paraissait imbattable.
Cependant, les Philistins, profitant du récent mariage de Samson avec Dalila, surnommée la coquette, résolurent de surprendre par ruse le secret de la force du héros. Ils dépêchèrent des messagers auprès de la jeune femme.
Voici une grosse somme d'argent pour tes robes et tes bijoux. En échange, nous désirons savoir d'où ton mari tire son incroyable énergie.
Le soir même, Dalila s'approcha de Samson et le combla de caresses, en essayant de le faire parler. Mais le paysan se méfiait et ne livra pas son secret. Chaque nuit, Dalila revenait à la charge et le harcelait de questions. Un soir, excédé par ses relances perpétuelles, il avoua pour avoir la paix.
Jamais les ciseaux n'ont touché un seul de mes cheveux. C'est dans ma chevelure que réside toute ma puissance.
Le lendemain, la traîtresse prit contact avec les Philistins, qui dissimulèrent un commando dans la maison de Samson. La nuit suivante, profitant du sommeil du guerrier, Dalila coupa les 7 tresses de la chevelure de son mari. Samson, se réveillant en sursaut, comprit qu'il était perdu. Les Philistins se saisirent de lui et se vengèrent en lui crevant les yeux. Puis, après lui avoir rasé le crâne, ils l'enchaînèrent.
Bien que bâti comme un autre, sous sa toison d'or, ce n'était pas de sa faute s'il était si fort. Aussi le soir, sa compagne cherchait à savoir le secret de son pouvoir. Avait tué de mort violente 1000 filles. Philistin finit par dire ma force est dans ma toison. Garde-moi mes cheveux longs. Dalila, par malice, s'approcha de lui, et avant qu'il ne s'éveille, d'un coup de ciseau, le tondit comme un agneau.
Quelque temps plus tard, à l'occasion d'une fête, on présenta Samson à la foule pour se moquer de lui. Le pauvre aveugle, dont les cheveux commençaient à peine à repousser, murmura cette prière.
Seigneur Dieu, donne-moi encore une fois la force qui est en ton pouvoir. Ne suis-je pas aveugle à jamais? Que j'entraîne dans ma nuit et dans ma mort les ennemis de ton peuple.
Samson se tenait entre les deux colonnes centrales du palais des fêtes. De ses deux bras chargés de chaînes, il s'arc-bouta contre les piliers en s'écriant
« Que je meure avec les Philistins !»
On vit alors ses cheveux courts se gonfler comme un buisson d'épines, ses muscles se durcir comme l'acier. Le colosse poussa un formidable rugissement. L'édifice s'écroula dans un fracas de pierres et de cris. Ainsi mourut Samson, donnant sa vie pour ses amis. Israël compta beaucoup d'autres héros, aussi forts et aussi prestigieux que Déborah et Samson. Mais, malgré la valeur de ces défenseurs du peuple, les Hébreux ressentaient de plus en plus le besoin d'avoir un roi.
Pourquoi n'avons-nous pas un roi qui marche à notre tête, comme les autres nations qui nous entourent?
La plupart attendaient donc un monarque qui leur aurait permis de gagner toute la guerre. D'autres, plus rares mais plus proches du cœur de Dieu, souhaitaient l'arrivée d'un libérateur pacifique qui mettrait un terme à la violence. À force de se battre, chacun voyait grandir en lui la nostalgie de la douceur et de la générosité. Israël connaissait aussi des héros de la bonté. Quand on était lassé de la bagarre et des baroudeurs, on se racontait à la veillée pour retrouver le sourire, comment Boaz, le moissonneur, avait traité Ruth, l'étrangère.
Raconte-moi l'histoire de Boaz et de Ruth. La sécheresse, cette année-là, désolait le pays. À Bethléem, le village des bergers, les clochettes des moutons semblaient sonner le glas.
Élimélec de Bethléem quitta son village accompagné de Noémie, sa femme, et de ses deux garçons.
Partons vers les champs du pays de Moab. de l'autre côté de la mer de sel. Sinon, nous mourrons dans ce désert.
Ils campèrent dans des prairies verdoyantes, au milieu des coquelicots. Des jeunes filles venaient puiser de l'eau aux fontaines ruisselantes. Elles chantaient et dansaient avec les bergers. Bientôt, les deux fils d'Élimélec présentèrent à leur père deux de ces paysannes du pays de Moab pour qu'elles deviennent leurs femmes. Elles furent bien accueillies dans la famille et les noces furent célébrées. La plus jeune des deux mariées était aussi la plus douce et la plus jolie. Elle s'appelait Ruth. Hélas, les hommes moururent et leurs femmes se retrouvèrent seules et sans argent. Noémie dit alors à ses belles filles,
« Retournez chez vos parents, puisque vous voici tristes et sans secours. »
Mère, jamais je ne t'abandonnerai. Ton malheur est aussi grand que le mien. Restons ensemble.
Et c'est ainsi que Ruth revint avec Noémie à Bethléem. Les nuages avaient enfin apporté une pluie fraîche et fine. Tout le pays s'était à nouveau couvert d'herbes et de fleurs. Ruth, en quête de travail et de subsistance, s'approcha de Boaz, un riche paysan de Bethléem. C'était un homme connu dans toute la région pour ses champs et ses troupeaux, mais surtout pour sa bonté. C'était aussi un parent d'Élimélec, le beau-père de Ruth.
Bonjour, Boaz. M'autoriserais-tu à suivre tes moissonneurs et à glaner les épis qui tombent de leurs gerbes?
Va, mon ami. Je souhaite que tu ramasses les plus beaux épis et que tu lies la plus belle gerbe.
Boaz dit à l'oreille de ses moissonneurs,
« Veillez bien à laisser choir des épis, car cette femme est étrangère. Elle a donc droit à la plus belle gerbe de mon champ. Ne vaut-elle pas mieux que les oiseaux du ciel ?»
En voyant la gerbe rapportée par Ruth, Noémie comprit que Boaz était un homme de cœur.
Ruth, retourne au champ des orbes. Les moissonneurs sont déjà couchés. Boaz dort sans doute près du gerbier. Glisse-toi sans bruit auprès de lui. Tu sauras bien lui parler. Il t'écoutera, puisqu'il entend les paroles de notre Dieu.
Il en fut ainsi. En cette nuit de pleine lune, dans le champ des orges. Il était minuit à Bethléem, quand Ruth s'étendit à la belle étoile, tout à côté de Boaz, au pied du gerbier. Boaz s'éveilla. Il dit,
« Ruth. »
Elle dit,
« Boaz. »
Le paysan de Bethléem passa son anneau au doigt de Ruth l'étrangère. Ils se marièrent et eurent un fils, Obed. Quand cet enfant fut devenu un homme, il donna à son tour le jour à un fils qu'on appela Jessé. Jessé devint le petit-fils préféré de Boaz, qui prononça sur lui cette prédiction.
« Jessé, tu es béni de Dieu. Je te donne toutes mes terres. Dieu, lui, te donnera 8 enfants, dont le dernier deviendra le premier. »
Le plus jeune fils de Jessé, David, deviendrait en effet le plus grand roi d'Israël. À quelque temps de là, un jeune homme de fière allure nommé Saül, de haute taille et dans la fleur de l'âge, partit un matin à la recherche des ânesses de son père qui s'était égaré.
« Va consulter Samuel, le voyant. Il t'indiquera ce que tu dois faire. »
Saül obéit. Il rencontra Samuel qui se rendait à la prière. Le voyant était inquiet, car le peuple, rassemblé sous sa fenêtre, grondait encore.
Nous voulons un roi qui nous gouverne, comme on voit chez nos puissants voisins.
Alors Samuel le prophète répandit sur la tête de Saül l'huile du sacre des rois. C'est ainsi que Saül devint le premier roi d'Israël. Pendant des années, Saül combattit de tous côtés pour défendre le peuple d'Israël contre ceux qui lui l'adulent. Il remporta beaucoup de victoires et se couvrit de gloire. Mais, après une vie de lutte et de fatigue, Saül commença à vieillir de vilaine façon. Il se renferma, devint coléreux et triste. Il ne souriait plus. Il passait des heures sur son trône, la couronne sur la tête et la lance à la main, et on disait à la cour...
Le roi est devenu fou.
Le roi est devenu fou.
Et un jour, il eut une crise affreuse. Il passait du rire aux larmes et ne tolérait que la présence de son vieux garde du corps. Soudain, le roi dit...
Allez à Bethléem, dans la famille de Jessé, l'homme a 8 enfants. Le plus jeune est poète et musicien. Amenez-le. Sa musique m'apaisera.
Déjà, Samuel, le voyant, avait été averti par Dieu de l'état misérable du roi. Il était parti aussitôt pour Bethléem. Il frappa à la porte de Jessé.
Bonjour, Jessé. Paix sur ta maison. Présente-moi tes enfants, je te prie.
Que ta volonté soit faite, homme de Dieu.
L'aîné parut.
Va, mon fils,
dit le prophète. Le second vint à son tour et repartit de même. Ainsi défilèrent les 7 premiers fils de Jessé.
Tu n'as point d'autre garçon?
J'ai encore un fils, David, que j'ai envoyé au champ porter un message à mes bergers.
Appelez David, au nom du Seigneur.
David se présenta. Il était roux, avait un très beau regard, la carrure du guerrier et les mains du musicien. Il jouait en effet de la cithare et de la harpe. On disait dans la région que les oiseaux de la mer venaient l'écouter. Depuis lors, les mamans donnent volontiers à leurs enfants le nom de David.
« C'est lui qui est choisi, »
dit Samuel. David prit la route, ce soir-là, et fit son entrée à la cour de Saül. Il joua des danses et chanta des poèmes. Il plut au roi.
« Tu seras désormais mon troubadour et le chef de mes gardes. Que l'on sache que tu es l'ami du roi. »
Saül tendit alors sa propre épée à David, qui joua tard dans la nuit.
« J'étais le plus petit parmi mes frères et le cadet des 8 fils de mon père.
À cette époque, les Hébreux vivaient à nouveau dans la terreur et la honte. Depuis 40 jours, un géant du nom de Goliath s'avançait à la tête des Philistins. Revêtu d'une lourde carapace et précédé d'un porte-bouclier, il défiait l'armée d'Israël.
Donnez-moi un homme, j'offre le combat. Qu'il approche le téméraire, je le pourfendrai.
Personne dans le camp des Hébreux n'osait relever le défi. Alors un matin, David prit son bâton de berger, sa fronde et sa giberne. Il choisit 5 pierres bien lisses dans le torrent et s'avança vers le colosse. Goliath ricanait.
Approche, vermisseau, de l'ogre, Goliath.
C'est moi qui donnerai ta chair au chien, car Dieu te livrera entre mes mains,
répondit David. Le géant rugit et fonça sur le jeune berger comme un taureau furieux. En un clin d'œil, David fit tournoyer sa fronde, la pierre siffla, Goliath s'écroula.
Les Philistins étaient en guerre et lui c'était un Philistin. Avec son casque et ses jambières, il faisait peur aux gens humains. Goliath était son nom, toujours prêt au combat. Il était le champion d'innombrables soldats. De loin, on le voyait déjà. Face à un géant, portant sur la tête un casque de bronze brillant au soleil. Que peut un enfant, David le poète, venu voir ses frères au camp d'Israël? Celui d'entre vous qui ne tremble, qu'il avance et je le combat, ainsi criait à pierre fendre le géant dans un porte-voix. Par-dessus la vallée, lequel lutte avec moi, je dois vous informer, je tue comme je vois. 12 lions ne m'effraient pas. Face à un géant, portant sur la tête un casque de bronze brillant au soleil, que peut un enfant, David le poète, venu voir ses frères au camp d'Israël? Le cheveu court et l'âme pure, avec sa fronde dans la main, un jeune berger sans armure laisse approcher le Philistin. En plein milieu du front, il lui lance un caillou qui lui dessine en rond comme un tout petit trou. Le géant tombe d'un seul coup. Face à un géant, portant sur la tête un casque de bronze brillant au soleil, ce fut un enfant, David le poète, qui sauva ses frères au camp d'Israël.
Saül félicita le jeune vainqueur et Jonathan, le fils du roi, l'embrassa. Un jour, pourtant, alors que David jouait de la cithare devant Saül, celui-ci, dans un subit accès de folie, lança son javelot vers le musicien. Mais David, avec l'agilité de la gazelle, esquiva le coup mortel. Il dut s'enfuir au désert pour protéger sa vie. Il lui fallait abandonner deux êtres chers, sa femme, Michal, fille du roi, et son ami Jonathan, fils du roi. Sans cesse, les Philistins encerclaient les armées de Saül. À chaque occasion, David les attaquait et les mettait en déroute. Alors, le peuple de Gibéa l'acclamait en criant sous les fenêtres du roi:
« Saül en a tué 1000, David 10 000 !»
Ces manifestations excitaient la jalousie. David dut continuer à se cacher dans les montagnes pour échapper à la haine du roi. Il recrutait des troupes pour sa sécurité et la défense du peuple quand un coursier survint à cheval.
D'où viens-tu, cavalier?
De la terrible bataille de Galgoé. J'ai réussi à venir te prévenir.
Que s'est-il donc passé, raconte?
Les tireurs d'élite ont surpris Saül et l'ont atteint mortellement. Les trois fils du roi sont ensuite tombés en se battant pour l'honneur, rejoignant leur père dans la mort.
David éprouva une immense douleur. Il composa un poème que l'on chante encore aujourd'hui. C'est le Chant des archers, dédié à son ami Jonathan, l'un des plus grands héros de la liberté.
Montagne de Galborée, dites-moi la vérité. Comment sont-ils tombés, les vaillants, les prédisants? J'en ai oh.